Chapitre 29. Le soir, au souper, cette question « Que s'est-il passé à Saint-Pipois avec Guillaume ?» lui fut de nouveau posée par Fabry et par Montbleu, car il n'était personne de la maison qui ne sût qu'elle avait ramené M. Vulfranc, et elle recommença le récit qu'elle avait déjà fait à Talwell. Alors ils déclarèrent que l'ivrogne n'avait que ce qu'il méritait. « C'est miracle qu'il n'ait pas versé 10 fois le patron, » dit Fabry, « car il conduisait comme un fou. » « Prononcez plutôt comme un sou, » répondit Montbleu en riant. « Il y a longtemps qu'il aurait dû être congédié. » « Et qu'il l'aurait été, en effet, sans certains appuis. » Elle devint tout oreille, mais en s'efforçant de ne pas laisser paraître l'attention qu'elle prêtait à ses paroles. « Il le payait, cet appui. Pouvait-il faire autrement ? Pouvait-il faire autrement ? Il l'aurait pu s'il n'avait pas donné barre sur lui. » On est fort pour résister à toutes les pressions, d'où qu'elles viennent, quand on marche droit. C'était là le diable pour lui de marcher droit. Êtes-vous sûr qu'on ne l'a pas encouragé dans son vice, au lieu de le prévenir qu'un jour ou l'autre il se ferait renvoyer ? Je pense qu'on a dû faire une drôle de mine quand on ne l'a pas vu revenir. J'aurais voulu être là. On s'arrangera pour le remplacer par un autre qui espionne et rapporte aussi bien. C'est tout de même étonnant que celui qui est victime de cet espionnage ne le devine pas et ne comprenne pas que ce merveilleux accord d'idées dont il se vante, que cette intuition extraordinaire, ne sont que le résultat de savantes préparations. Qu'on me rapporte que vous avez ce matin exprimé l'opinion que le foie de veau aux carottes était une bonne chose, et je n'aurai pas grand mérite à vous dire ce soir que je suppose que vous aimez le veau aux carottes. » Ils se mirent à rire en se regardant d'un air goguenard. Si Perrine avait eu besoin d'une clé pour deviner les noms qu'il ne prononçait pas, ce mot, je suppose, la lui eût mise aux mains. Mais tout de suite, elle avait compris que le « on » qui organisait l'espionnage était Talwell et celui qui le subissait, M. Vulfranc. « Enfin, quel plaisir peut-il trouver à toutes ces histoires ?» demanda Montbleu. « Comment quel plaisir ? On est envieux ou on ne l'est pas. De même, on est ou l'on n'est pas ambitieux. » « Eh bien, il se rencontre qu'on est envieux et encore plus ambitieux. Parti de rien, c'est-à-dire d'ouvrier, on est devenu le second dans une maison qui, à la tête de l'industrie française, fait plus de 12 millions de bénéfices par an, et l'ambition vous est venue de passer du second rang au premier. Est-ce que cela ne s'est pas déjà produit et n'a-t-on pas vu de simples commis remplacer des fondateurs de maisons considérables ?» Quand on a vu que les circonstances, les malheurs de famille, la maladie, pouvaient un jour ou l'autre mettre le chef dans l'impossibilité de continuer à la diriger, on s'est arrangé pour se rendre indispensable et s'imposer comme le seul qui fut de taille à porter ce fardeau écrasant. La meilleure méthode pour en arriver là n'était-elle pas de faire la conquête de celui qu'on espérait remplacer, en lui prouvant du matin au soir qu'on était d'une capacité, d'une force d'intelligence, d'une aptitude aux affaires au-delà de l'ordinaire. De là le besoin de savoir, à l'avance, ce qu'a dit le chef, ce qu'il a fait, ce qu'il pense, de manière à être toujours en accord parfait avec lui, et même de paraître le devancer. Si bien que quand on dit « Je suppose que vous voudriez bien manger du veau aux carottes », la réponse obligée soit « Parfaitement ». De nouveau, ils se mirent à rire, et pendant que Zénobie changeait les assiettes pour le dessert, ils gardèrent un silence prudent. Mais lorsqu'elle fut sortie, ils reprirent leur entretien, comme s'ils n'admettaient pas que cette petite qui mangeait silencieusement dans son coin pût en deviner les dessous qu'il brouillait à dessein. « Et si le disparu reparaissait ?» dit Montbleu. C'est ce que tout le monde doit souhaiter. Mais s'il ne reparaît pas, c'est qu'il a de bonnes raisons pour ça, comme d'être mort probablement. C'est égal, une pareille ambition chez ce bonhomme est raide tout de même quand on sait ce qu'il est et aussi ce qu'est la maison qu'il voudrait faire sienne. Si l'ambitieux se rendait un juste compte de la distance qui le sépare du but visé, le plus souvent, il ne se mettrait pas en route. En tout cas, ne vous trompez pas sur notre bonhomme, qui est beaucoup plus fort que vous ne croyez, si l'on compare son point de départ à son point d'arrivée. Ce n'est pas lui qui a amené la disparition de celui dont il compte prendre la place. Qui sait s'il n'a pas contribué à provoquer cette disparition ou à la faire durer ? Vous croyez ? Nous n'étions ici ni l'un ni l'autre à ce moment, nous ne pouvons donc pas savoir ce qui s'est passé. Mais étant donné le caractère du personnage, il est vraisemblable d'admettre qu'un événement de cette gravité n'a pas dû se produire sans qu'il ait travaillé à envenimer les choses de façon à les incliner du côté de son intérêt. Je n'avais pas pensé à cela. Tiens, tiens. Pensez-y et rendez-vous compte du rôle, je ne dis pas qu'il a joué, mais qu'il a pu jouer, en voyant l'importance que cette disparition lui permettrait de prendre. Il est certain qu'à ce moment, il pouvait ne pas prévoir que d'autres hériteraient de la place du disparu. Mais maintenant que cette place est occupée, quelles espérances peut-il garder? Quand ce ne serait que celle que cette occupation n'est pas aussi solide qu'elle en a l'air. Et de fait, est-elle si solide que ça? Vous croyez? J'ai cru en arrivant qu'elle l'était. Mais depuis, j'ai vu par bien des petites choses que vous avez pu remarquer vous-même qu'il se fait un travail souterrain à propos de tout, comme à propos de rien, qu'on devine plutôt qu'on ne le suit, dont le but certainement est de rendre cette occupation intolérable. Y parviendra-t-on? D'un côté, arrivera-t-on à leur rendre la vie tellement insupportable qu'ils préfèrent de guerre lasse se retirer? De l'autre, trouvera-t-on le moyen de les faire renvoyer? Je n'en sais rien. Renvoyer? Vous n'y pensez pas! Évidemment, s'ils ne donnent pas prise à des attaques sérieuses, ce sera impossible. Mais si, dans la confiance que leur inspire leur situation, ils ne se gardent pas, s'ils ne se tiennent pas toujours sur la défensive, s'ils commettaient des fautes et qui n'en commet pas, alors surtout qu'on est tout puissant et qu'on a lieu de croire à l'avenir assuré, je ne dis pas que nous n'assisterons pas à des révolutions intéressantes. Pas intéressantes pour moi, les révolutions, vous savez. Je ne crois pas que j'aurai plus que vous à y gagner. Mais que pouvons-nous contre leur marche? Prendre parti pour celui-ci, prendre parti pour celui-là? Ma foi, non. D'autant mieux qu'en réalité, mes sympathies sont pour celui dont on vise l'héritage, en escomptant une maladie qui doit, semble-t-il aux uns et aux autres, le faire disparaître bientôt. Ce qui, pour moi, n'est pas du tout prouvé. Ni pour moi. D'ailleurs, on ne m'a jamais demandé nettement mon concours, et je ne suis pas homme à l'offrir. Ni moi non plus. Je m'en tiens au rôle de spectateur, et quand je vois un des personnages de la pièce qui se joue sous nos yeux entreprendre une lutte qui semble impossible, aussi bien que folle, n'ayant pour lui que son audace, son énergie, sa canaillerie, si vous voulez, je le dirai avec vous, cela m'intéresse, bien que je n'ignore pas que dans cette lutte, des coups seront donnés qui pourront m'atteindre. Voilà pourquoi j'étudie ce personnage, qui n'a pas que des côtés tragiques, mais qui en a aussi de comiques, comme il convient d'ailleurs dans un drame bien fait. Moi, je ne le trouve pas comique du tout. Comment vous ne trouvez pas personnage comique, un homme qui à 20 ans savait à peine lire et signer son nom, et qui a assez courageusement travaillé pour acquérir une calligraphie et une orthographe impeccables qui lui permettent de reprendre tout le monde, ni plus ni moins qu'un maître d'école? Ma foi, je trouve ça remarquable. Moi aussi, je trouve ça remarquable. Mais le comique, c'est que l'éducation n'a pas marché parallèlement avec cette instruction primaire, que le bonhomme s'imagine être tout dans le monde, si bien que, malgré sa belle écriture et son orthographe féroce, je ne peux pas m'empêcher de rire quand je l'entends faire usage de son langage distingué, dans lequel les haricots sont des flageolets et les citrouilles des potirons. Nous nous contentons de soupe, lui ne mange que du potage. Quand je veux savoir si vous avez été vous promener, je vous demande « Avez-vous été vous promener ?» Lui vous dit « Allâtes-vous à la promenade ? Qu'éprouvâtes-vous ? Nous voyageâmes !» Et quand je vois qu'avec ses beaux mots, il se croit supérieur à tout le monde, je me dis que s'il devient maître des usines qu'il convoite, ce qui est possible, sénateur, administrateur de grandes compagnies, il voudra sans doute se faire nommer de l'Académie française et il ne comprendra pas qu'on ne l'accueille point. À ce moment, Rosalie entra dans la salle et demanda à Perrine si elle ne voulait pas faire une course dans le village. Comment refuser ? Il y avait longtemps déjà qu'elle avait fini de dîner et rester à sa place eût pu éveiller des suppositions qu'elle devait éviter de faire naître si elle voulait qu'on continuât de parler librement devant elle. La soirée étant douce et les gens restant assis dans la rue en bavardant de porte en porte, Rosalie aurait voulu flâner et transformer sa course en promenade. Mais Perrine ne se prêta pas à cette fantaisie, elle prétexta la fatigue pour rentrer. En réalité, ce qu'elle voulait, c'était réfléchir, non dormir, et dans la tranquillité de sa petite chambre, la porte close, se rendre compte de sa situation et de la conduite qu'elle allait avoir à tenir. Déjà, pendant la soirée où elle avait entendu ses camarades de chambrée parler de Talwell, elle avait pu se le représenter comme un homme redoutable. Depuis, quand il s'était adressé à elle pour qu'elle lui dît toute la vérité sur les bêtises de Fabry, en ajoutant qu'il était le maître et qu'en cette qualité il devait tout savoir, elle avait vu comment cet homme redoutable établissait sa puissance et quels moyens il employait. Cependant, tout cela n'était rien à côté de ce que révélait l'entretien qu'elle venait d'entendre. Qu'il voulût avoir l'autorité d'un tyran, à côté, au-dessus même de M. Vulfranc, cela, elle le savait. Mais qu'il espéra remplacer un jour le tout-puissant maître des usines de Maroucourt et que depuis longtemps il travailla dans ce but, cela, elle ne l'avait pas imaginé. Et pourtant, c'était ce qui résultait de la conversation de l'ingénieur et de Montbleu, en situation de savoir mieux que personne ce qui se passait, de juger les choses et les hommes, et d'en parler. Ainsi, le « on », qu'il n'avait pas autrement désigné, devait s'arranger pour remplacer par un autre l'espion qu'il venait de perdre. Mais cet autre, c'était elle-même qui prenait la place de Guillaume. Comment allait-elle se défendre? Sa situation n'était-elle pas effrayante? Et elle n'était qu'une enfant, sans expérience comme sans appui. Cette question, elle se l'était déjà posée, mais non dans les mêmes conditions que maintenant. Et, assise sur son lit, car il lui était impossible de rester couchée, tant son angoisse était énervante, elle se répétait mot à mot ce qu'elle avait entendu. Qui sait s'il n'a pas contribué à provoquer l'absence du disparu et à la faire durer? La place comprise ceux qui doivent remplacer ce disparu est-elle aussi solidement occupée qu'on croit, et ne se fait-il pas un travail souterrain pour les obliger à l'abandonner, soit en les forçant à se retirer, soit en les faisant renvoyer? S'il avait cette puissance de faire renvoyer ceux qui semblaient désignés pour remplacer le maître, que ne pourrait-il pas contre elle qui n'était rien si elle essayait de lui résister et se refusait à devenir l'espionne qu'il voulait qu'elle fût? Comment ne donnerait-elle pas barre sur elle? Elle passa une partie de la nuit à agiter ses questions, mais quand, à la fin, la fatigue la coucha sur son oreiller, elle n'en avait vu que les difficultés sans leur trouver une seule réponse rassurante.